L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce radio-journal. Le fil de l'information en deux titres, les embouteillages deviennent de plus en plus monstres dans la ville de Bukavu. Ceci suite à l'incivisme de certains chauffeurs, mais également l'absence des policiers de roulage dans la ville de Bukavu. Beaucoup plaident pour le retour de la formation en vue de réguler la circulation routière. La famine est à la porte du territoire d'Idjui. Certains produits et aliments de première nécessité sont devenus rares dans les milieux. C'est par exemple le haricot, la farine de maïs, l'huile de palme et les frétins communément appelés sambaza. Conséquence, les prix de ces aliments et produits ont doublé sur le marché. Voilà tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Des voix s'élèvent pour demander la sécurité autour de l'hôpital de Mukongola situé dans le groupement des Kagabi en territoire de Kabare. Et les acteurs sociaux du milieu trouvent inacceptable que cet hôpital soit attaqué deux fois en moins d'un mois par des hommes armés. Le dernier cas remonte à la nuit du mercredi 2 avril où des bandits ont fait irruption dans cet hôpital en y emportant des biens, des valeurs et de l'argent. Selon Moïse Biringanine, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile dans le groupement des Kagabi, des hommes armés sont entrés dans cet hôpital à partir de 22h. Ils ont saboté les bureaux du médecin directeur et celui du médecin chef des zones de santé avant de pénétrer dans la caisse où ils ont emporté le coffre-fort. Au niveau de la maternité, ils ont tiré sur un médecin qui était en pleine opération chirurgicale, mais ce dernier a eu la vie sauve car la balle a effleuré légèrement sa peau, ajoute notre source. Au-delà de ce médecin, ils ont tabassé les sentinelles qui assurent la garde de l'hôpital avant de se volatiliser dans la nature en tirant des balles en l'air. Moïse Biringanine, coordonnateur du cadre de concertation de l'hôpital civil à Kagabi, plaide pour la sécurité de l'hôpital de Mukongola.
En tout cas, je lance un appel aux autorités qui nous dirigent actuellement parce que le groupement de Kagabi, la zone de santé de Kabare n'a aucun élément pour sa sécurité parce que tous les policiers et les militaires qui y étaient sont partis. Donc nous sommes sans aucun agent de l'ordre dans cette entité du territoire de Kabare, dont nous sollicitons beaucoup plus, en tout cas, les interventions rapides, parce que l'hôpital de Mukongola, en tout cas, devient plus en plus insécurisé ces derniers temps.
Disait qu'au mois de mars, cette structure avait enregistré une autre attaque d'hommes armés. L'hôpital de Mukongola reçoit plusieurs malades en provenance principalement des quatre groupements du territoire de Kabare, à savoir Kagabi, Bushira, Chirunga et Bugobe. Et au Nord Kivu, depuis le 19 mars dernier, jour de l'escalade de la violence entre les forces armées de la RDC et les militaires de l'AFC M23, plus de 80% de la population a fui la cité de Walikale au Nord Kivu, ce qui a affecté gravement l'accès aux soins de santé. Ces populations sont parties après avoir entendu des tirs d'artillerie en craignant les hostilités. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué rendu public par Médecins sans frontières et consulté par Radio Mandeléo jeudi 3 avril 2025. Son contenu avec Hélène Boudjiriri.
Dans ses communiqués, l'organisation indique que plus de 700 personnes déplacées se sont réfugiées à l'hôpital général de Walikale, ce qui accroît la pression sur des ressources médicales déjà limitées. Ces derniers jours, la situation a continué de se détériorer, lit-on dans ces documents. Les responsables des programmes de MSF au Nord Kivu indiquent que leurs équipes doivent suspendre leurs activités médicales lorsque des combats éclatent et ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. La sécurité de notre personnel et de nos patients est notre priorité absolu, a-t-il déclaré. Des tirs intenses ont été entendus à proximité de la base de MSF, lit-on dans ses communiqués, ce qui traduit les risques extrêmes auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé et les communautés qu'ils servent. Bien plus, s'inquiète MSF, il y a deux semaines, un tir croisé a touché sa base logistique, affectant ses structures et certains de ses véhicules. Aujourd'hui, les défis logistiques restent critiques, sans route ou voie aérienne, viable pour faciliter le transport des fournisseurs fournitures et du personnel, explique notre source qui rappelle que la dernière livraison aérienne est arrivée le 17 janvier. D'ici deux semaines, les équipes sur le terrain commenceront à faire face à des pénuries de médicaments essentiels, ce qui compliquera encore leur capacité à fournir une assistance médicale urgente, s'inquiètent les responsables des programmes de MSF au Nord Kivu. MSF appelle une fois de plus toutes les parties belligérantes à respecter et à protéger les civils, les structures médicales et les personnels de santé, ainsi que de faciliter l'acheminement de l'approvisionnement médical dans la région.
Nous l'avons appris, les forces armées de la RDC et Oazalendo étaient visibles dans la cité de Walikale jeudi dans la journée, ceci après le retrait de l'armée de l'AFC M23 de la zone.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Nous changeons de chapitre à présent. Des scènes d'embouteillage deviennent de plus en plus visibles dans la ville de Bukavu. Des véhicules restent coincés pendant de nombreuses minutes à certains points chauds de la ville à des heures de pointe, comme le matin, à midi et en début de soirée. Explication Mapendo Linda.
Avec la reprise des activités dans la ville, selon l'observation de Radio Maendeleo, les embouteillages ont repris leur droit de cité et ils s'accentuent davantage suite au comportement véreux de certains conducteurs des véhicules. C'est par exemple sur les tronçons Place de l'Indépendance Bagui ou encore Feu Rouge Niawera. Sur ces tronçons cités, les conducteurs de véhicules créent souvent la troisième bande, voire la quatrième, empêchant aux véhicules qui viennent dans les sens opposés d'avancer. Pour plusieurs observateurs, ces chauffeurs se comportent de la sorte parce que l'autorité de régulation de la circulation routière est quasi absente dans la ville de Bukavu. Les policiers qui assuraient ces rôles sont en grande majorité partis en formation au Nord Kivu quelques jours après l'arrivée de l'AFC M23 dans la ville de Bukavu et jusqu'à et là, aucune nouvelle sur le retour dans la ville. À leur place, certains volontaires issus des associations des transporteurs, comme l'association des chauffeurs du Congo Aseko, assurent non sans peine cette tâche. Ces volontaires se démènent tant bien que mal pour réguler la circulation, mais l'absence de la coercition ne favorise pas le retour à l'ordre sur les voies routières, d'où les plaidoyers pour le retour des policiers des roulages pour réguler la circulation. Junior Kamwele, président du conseil urbain de la jeunesse, en parle.
À ceux qui gouvernent la ville de Bukavu, nous voudrions rappeler qu'ils ont la charge d'abord de servir la population bukavienne et de voir dans quelle mesure ils peuvent faciliter les retours des agents de l'ordre qui sont partis à la formation. Ils nous ont été présentés par leur canal de communication. S'ils pourraient être redéployés dans la ville de Bukavu afin de faciliter la circulation, en tout cas, ça serait aider vraiment la ville de Bukavu et ses citoyens.
Une source proche de l'association des chauffeurs du Congo a attribue le relâchement de ses membres dans la régulation de la circulation routière à l'absence d'une motivation financière. Cette situation laisse la place à un désordre criant des conducteurs des véhicules qui, sur différents tronçons de la ville, posant ainsi les embouteillages monstres les matins, la journée comme les soirs.
Et la crise sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC a mis à terre un nombre important des projets qui étaient déjà en cours d'exécution et d'autres qui venaient à peine d'être lancés, particulièrement dans le secteur des infrastructures routières dans la ville de Bukavu, Sud Kivu. Alors que des chantiers étaient déjà lancés, avançant à grands pas à Bukavu comme dans certains territoires et que d'autres étaient à des étapes décisives en croire des assurances fournies par les autorités d'alors, aujourd'hui, tout est conjugué au passé. Explication Omer Moudekereza.
Dans la ville de Bukavu, par exemple, des engins des différentes sociétés étaient régulièrement visibles sur avenue Sayo, soit les tronçons allant de la place dite Feu Rouge jusqu'à la Tene d'Ibanda, sur avenue Sinelak, soit de la Tene d'Ibanda jusqu'à Nyawera, mais aussi à Nguba et Mumba, dans la commune d'Ibanda. Dans la commune de Bagira, la crise sécuritaire s'est accentuée pendant que venaient d'être lancés des travaux de réhabilitation du tronçon allant de la place communale jusqu'au quartier D. En commune d'Ibanda, les avenues ont été exécutées, les travaux sont devenus quasi invisibles. Sur ces chantiers inachevés, les routes sont comparables à des champs de manioc, particulièrement lorsqu'il a plu. Bien plus, l'accès des véhicules y est actuellement difficile et le matériel commence à être volé dans certains endroits, alors que dans d'autres, ces matériels sont emportés par les eaux des ruissellements. D'autres grands chantiers sont celui de la route nationale numéro 2, Bukavu-Uvira, en passant par les escarpements de Ngomo, et celui de la route nationale numéro 2, dans son tronçon allant de Bukavu jusqu'à Mugogo-Walungu, dans leur première phase. À alors que les travaux avançaient à grands pas, particulièrement sur les tronçons allant de Nyantende jusqu'à Nyangezi et vers les escarpements d'Engomo. Sur terrain, rien n'est visible. Les sites qui abritaient les engins et les équipes de la société qui exécutaient les travaux a même été pillés et des engins emportés à une destination inconnue. Sur le chantier du tronçon Bukavu-Mugogo-Walungu, les usagers devront encore attendre longtemps avant de voir les punaises questions de l'endroit dit Yesu-Yesu 2 être résolues. Ici aussi, des matériels entreposés et prêts à être utilisés ont été pillés par des inconnus. Des organisations de la société civile ont même alerté sur la présence de véhicules qui étaient en train de charger ce matériel vers des destinations inconnues. Dans l'opinion, ce sont des questions qui persistent sur le sort de ces travaux, actuellement suspendus pendant qu'une bonne partie des fonds étaient déjà libérés d'un côté par les partenaires du gouvernement et de l'autre par le gouvernement lui-même.
L'exploitation de l'or dans le site minier de l'Omera, en groupement de Louis en territoire de Kabaré, risque de provoquer des conséquences sur l'environnement de la zone, particulièrement l'écosystème du lac Kivu et le déboisement. L'alerte des défenseurs des droits humains de la place, corroborée par certains chercheurs qui sont déjà arrivés sur place dans la zone. Au sujet, par exemple, des risques de pollution de l'écosystème du lac Kivu, nos sources indiquent que certains exploitants ont transformé le lac en site de laverie, alors que d'autres y orientent les eaux avec des déchets qui peuvent être toxiques. Pour l'instant, les sensibilisations sont en cours afin de mettre fin à cette pratique, mais des experts estiment que seul le respect de la réglementation en la matière peut suffire, d'où l'appel à plus de responsabilité dans le chef des gestionnaires du dit site. Sur place à Louis, explique nos sources, l'afflux massif des populations à la recherche de l'or ou exerçant des activités connexes autour de ces sites miniers a été à la base d'un abattage désordonné des arbres. Sous anonymat, un défenseur des droits de l'homme de la place propose la réglementation du secteur qui voudrait voir les habitants couper les arbres mais en planter d'autres pour protéger l'environnement. On l'écoute.
Le lac Kivu est attaqué par le fait qu'il y a certaines personnes, communément appelés des choqués, qui continuent à utiliser le lac Kivu comme site de laverie, et cela impacte négativement sur les eaux du lac Kivu. Alors nous continuons à sensibiliser la population et ces gens qu'il faut leurs activités, que les sites de laverie doivent être de l'outre, et ce sont des sites très appropriés, ce n'est pas le lac Kivu. Il faut aussi signaler que là, l'environnement est détruit par le fait qu'il y a des gens qui abattent les arbres de manière très régulière et qui sont à la recherche de l'argent sans pour autant planter d'autres arbres.
Par ailleurs, certains produits des premières nécessités s'effondrent de plus en plus rares dans plusieurs villages du territoire d'Idjui, ce qui pourrait occasionner une famine dans cette partie du sud Kivu. Des habitants du milieu contactés par Radio Mandela expliquent que parmi les denrées rares figurent les haricots, la farine de maïs, l'huile de palme ou encore le frétin communément appelé sambaza. Alain Kabika pour plus de détails.
À ce jour, ajoute nos sources, une mesure de farine qui coûtait jadis 1000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 2000 francs congolais. Une mesure des haricots qui coûtait 3500 francs congolais se négocie à ce jour à 5000 francs congolais. Pour ce qui est des frétins dits sambaza pêchés dans les lacs Kivu, des habitants du territoire d'Idjui déplorent de constater que ces produits deviennent rares dans leur entité, pourtant considérés comme aliments de base dans les milieux. Ceci car plusieurs pêcheurs décident de se diriger vers le carré minier, situé dans les villages Lomera, groupement de Louis en territoire de Kabaré, où ils les vendent à des prix exorbitants. Ces habitants ajoutent que même pour ce qui est de l'eau, plusieurs d'entre eux consomment celle du lac Kivu, avec toutes les conséquences sur leur santé, car certaines organisations qui intervenaient dans la purification de l'eau ont quitté Idjui depuis la chute de la ville de Bukavu. L'un d'eux qui a requis l'anonymat plaide pour une intervention urgente afin de sauver des vies humaines qui sont en danger dans cette partie du site Kivu suite à cette situation. On l'écoute.
Cet aspect reste chaotique ces derniers temps. Actuellement, aucune organisation n'intervient dans la zone. Il y a aussi des cas de maladies d'origine hydrique. Il manque aussi d'intervention. Les structures sanitaires n'ont pas de produits. C'est pas tout le monde qui arrive encore en ville pour se ravitailler. La situation, en tout cas, reste très, très chaotique. Toutes les denrées alimentaires sont devenues chères. On ne sait pas, en tout cas, sur quel sens se vouer. C'est vraiment un cri d'alarme à toutes les organisations humanitaire et qu'ils puissent trouver une solution urgente pour que la population insulaire d'Idjui ne puisse périr.
Ces derniers plaident également pour les renforcements de la sécurité des personnes et celles de leurs biens, car plusieurs d'entre eux ne se dirigent plus dans leurs champs, craignant pour leur sécurité.
Et au Nord Kivu, l'ingénieur Deo Wamiriza a été officiellement présenté jeudi 3 avril comme le nouveau directeur provincial de la régie des eaux Nord Kivu. Deo Wamiriza, désigné et approuvé par l'autorité de la FCM23, succède à l'ingénieur David Angoyo. L'ingénieur Deo Wamiriza a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment celui de chef de bureau urbain de l'urbanisme et habitat, avant de devenir chef de division provinciale de l'urbanisme au Nord Kivu par ordonnance présidentielle. Lors de son discours, le nouveau directeur provincial a exprimé sa gratitude et promet de tout mettre en œuvre pour la desserte en eau potable à Goma. Il en parle dans ses propos recueillis par notre correspondant à Goma, Paulin Aganzé.
Je suis joyeux de cette confiance me confiée par les autorités de M23. Dans le temps, j'ai été dans cette ville comme chef de bureau urbain de l'urbanisme et de l'habitat. Et ensuite, j'ai été nommé par l'ordonnance présidentielle, me nommant chef de division de l'urbanisme.
Par ici pour enfin ce radio-journal, Émile Mouindo a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.